Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vona Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une habitude. Cette semaine, la transmission dans tous ses états, une série de Caroline Eliatchev réalisée par Manouchak Fachaï. Au départ de cette série, il y a les aînés qui regardent les plus jeunes, avec plus ou moins de bienveillance. Il y a des noms qu'on se transmet à chaque génération, et les histoires et les biens qui vont avec. Et puis il y a aussi des habitudes, des usages, des savoirs et même des privilèges qu'on se transmet quand on a la possibilité de le faire et l'envie de s'en emparer. Mais il y a aussi ceux qui ne veulent pas de l'héritage et ceux qui n'hériteront que d'eux-mêmes. Alors il faut peut-être questionner la transmission et se demander aussi si ce qu'on a à transmettre est forcément si désirable, parce que transmettre, ce n'est pas formater. Alors pour commencer, les personnages. Une historienne de la Révolution qui a grandi dans une école, une académicienne qui fait résonner sa voix sous la coupole, des intellectuels inquiets, d'autres qui affirment, et enfin un généticien et un psychanalyste qui cherchent des réponses. Ensuite le décor. Une vénérable institution campée sur ses positions, les quais de la Seine et le pont des Arts, des salons parisiens, des cours magistraux, des parquets de chaînes sombres et de belles bibliothèques, des studios où l'on se livre et le tintement de la porcelaine. Aujourd'hui, premier épisode, on est en France à Paris et les académiciens sont en habit vert.
Il avait fait une place au mot « transmission » dans son dictionnaire des idées reçues. Flaubert l'aurait sûrement commenté ainsi. La transmission, être pour. Et qui en effet pourrait être contre la transmission de la culture, de la civilisation.
Daniel Salnave,
sous cette coupole,
séance de rentrée des 5 académies, 27 octobre 2015.
Devant tant de grandeur architecturale, devant tant de continuité historique, comme son éloge paraît facile, aisé, naturel. C'est le processus même de l'humanisation, écrit l'historien et psychanalyste Pierre Legendre. Et il ajoute, on ne peut se fonder en prenant appui sur soi-même. Cette formule pourrait figurer aux côtés de la devise latine que nous avons sous les yeux. Or, cette vision heureuse de la transmission ne tient pas. Elle ne tient pas longtemps face à une sourde inquiétude partout exprimée. Rien ne va plus de soi aujourd'hui, ni chez ceux qui ont charge de transmettre, ni chez ceux qui ont le devoir de recevoir. Nous serions en train de vivre un moment de mutation radicale, un changement non pas seulement social ou moral, un changement anthropologique.
La transmission dans tous ses états, Caroline Eliatchev, Manouchak Fachaï. Aujourd'hui, le pari de la transmission. Si l'on parle de crise de la transmission, c'est parce qu'après l'avoir dévaluée, un peu comme l'autorité, on en redécouvre les vertus lorsqu'on en constate les carences. Autorité et transmission ont d'ailleurs partie liée, au sens où ce qui a été répudié dans l'un et l'autre cas, c'est la contrainte et la verticalité, s'opposant à la liberté de choix et de conscience, préalable supposé à l'autonomie. Quelles sont les mutations qui affectent aujourd'hui la transmission? Et avons-nous déjà connu une telle remise en question?
Qu'est-ce qui allait plus de soi que l'accord spontané entre les familles chargées de l'éducation et les institutions scolaires chargées de ce qu'on appelait classiquement l'instruction?
Marcel Gaucher, au Théâtre de la Colline, le 9 juin 2012.
Qu'est-ce qui allait plus de soi que le fait que les enfants veulent apprendre? Qu'est-ce qui allait plus de soi que le fait que les générations installées, formées, jouissent d'une autorité naturelle sur les générations montantes, vis-à-vis desquelles elles ont une obligation de transmission? Qu'est-ce qui va plus de soi que le fait qu'une société se reproduit en aménageant d'une manière ou d'une autre un processus par lequel les nouveaux venus sont socialisés, insérés dans une société humaine qui se définit par une culture et qui comporte donc toujours une certaine dose d'instruction, au sens très général du terme, des générations arrivantes. Et puis peut-être, encore une question supplémentaire, au fond, quelle activité plus évidente pour tout un chacun que celle d'apprendre? Eh bien, toutes ces évidences qui ont fonctionné jusqu'à présent d'une manière que personne ne questionnait, se sont effondrées en l'espace de quelques décennies, et en leur lieu et place se sont installés des troubles, des incertitudes, des contradictions, des opacités que nous ne maîtrisons pas et dont, pour commencer, la grande difficulté est de prendre la mesure.
La conscience des difficultés à transmettre dans la société contemporaine ne remet pas en question la nécessité de transmettre, mais plutôt le contenu et la façon de le faire. Pourtant, dans le passé, la question radicale de savoir s'il fallait transmettre s'est posée. Mona Ozouf.
Non, ça n'est pas une question nouvelle. On peut dire peut-être que c'est une question nouvelle qui, quand elle surgit au moment de la Révolution française, parce qu'elle surgit dans des termes d'une grande radicalité. À ce moment-là, la question devient non plus tellement que transmettre, c'est-à-dire comment choisir dans les éléments de l'héritage à transmettre, mais plutôt faut-il transmettre ? Question d'une radicalité totale. Et ce débat entre ceux qui disent qu'il ne faut pas transmettre, que la transmission est périlleuse pour des tas de raisons, ceux qui disent qu'au contraire c'est une folie criminelle de ne pas transmettre, le débat est théorisé par deux philosophes qui s'affrontent, Edmund Burke et Thomas Paine, et le débat est posé dans des termes vraiment d'une grande radicalité. Par exemple, Thomas Paine dit que transmettre est à la fois tyrannique, irrationnel et fixiste, que ça nous immobilise. Tyrannique pourquoi ? Parce que c'est la pesée des morts sur les vivants. Et que toute génération, selon Thomas Paine, a le droit d'inventer sa propre vie sans porter sur le dos ses ancêtres. Pour Paine, c'est tyrannique, c'est irrationnel aussi. Pourquoi ? Parce que le passé est une accumulation d'exemples complexe, confus, encombrant. Et donc il n'y a aucune sagesse à tirer du passé, puisque ce passé n'a pas été construit selon des principes, mais comme une accumulation d'exemples, chacun d'eux d'ailleurs ayant lui-même un passé. Donc tout ça n'a aucune légitimité rationnelle. Et puis c'est fixiste, bien sûr, puisque la tradition, si elle se transmet telle qu'elle, immobilise les individus. Ce qui, la sagesse est déjà déposée dans un état antérieur sur lequel il n'y a plus à revenir. C'est ce qui s'est toujours fait qui a autorité. Évidemment, en période révolutionnaire, tout ça n'a plus aucun sens, puisque la révolution, c'est la rupture avec ce qui s'est précédemment fait. Du reste, dans l'histoire française, il y a une illustration merveilleuse de cela, c'est que tout le passé national est tout d'un coup baptisé Ancien Régime. Donc voilà, ça, ne pas transmettre. Il ne faut pas transmettre. On n'a jamais rien dit d'aussi radical. Et à cela, Burke répond que ce que veut promouvoir Paine, c'est-à-dire ne pas transmettre, est à la fois irréaliste, parce que les générations sont liées entre elles, et qu'il y a un aspect cumulatif des connaissances, ce qui fait que si on ne transmet rien, il n'y a plus ni science, ni morale, etc. Et l'idée forte de Burke contre Paine, c'est que l'homme n'est rien, au fond, sans la vêture du passé. Du coup, il y a des formules magnifiques de Burke. Il dit « Les hommes, selon Thomas Paine, ce sont les mouches d'un seul été. » Si personne n'a rien légué à un individu et s'il ne lègue rien à ses descendants, bon, il a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin, ou les mouches d'un seul été. Voilà les deux argumentations. Et au fond, ces argumentations ont traversé l'histoire de France. On pourrait dire qu'il y a une revanche très rapide de Burke. Elle commence même dans la Révolution française par les résistances à toutes les nouveautés, des noms du calendrier. Celle du calendrier est probablement la plus éclairante pour le problème de la transmission. Donc il y a tout de suite des résistances. Et puis, si le moment de la Révolution illustre beaucoup de choses que dit Penn, précisément par l'invention d'une nouvelle scansion du temps ou d'un nouveau découpage de l'espace, en revanche, on pourrait dire que presque tout le XIXe siècle est occupé par une réhabilitation de l'histoire et du passé. Mais l'idée de Penn a continué à faire son chemin dans la politique française, plus ou moins obscurément. Pourquoi ? Parce que c'est l'idée que chaque homme a le droit d'inventer sa propre vie. Et c'est une idée qui est soutenue par la démocratie elle-même, puisque la démocratie, c'est le monde où tous les liens doivent être consentis, où il n'y a pas de lien qui dure ou qui demeure s'il n'obtient pas le consentement de l'individu. Donc, si Penn a été très vite déconsidéré dans la radicalité de son propos, l'idée qui présidait à ce propos a continué d'exister.
Une révolution d'une autre nature s'est opérée à l'époque de Jules Ferry quand il s'est agi de séparer, non sans remous, l'école de l'église, tandis qu'école et famille se répartissaient schématiquement les rôles, la tradition et l'éducation côté famille, l'instruction côté école. La transmission fonctionnait tant bien que mal de façon hiérarchique et les pédagogues du début du XXe siècle ne manquaient pas d'en souligner la prévalence.
Dans notre cas, nous étions encore dans une société sans transformation, c'est-à-dire que mon père m'apprenait tous les jours à faire comme lui.
L'écrivain Jean-Claude Carrière, né en 1931 dans une famille de viticulteurs à Colombières-sur-Orbe, a vécu son enfance dans ce monde où la transmission familiale assignait l'enfant à acquérir des savoirs et des traditions qu'il aurait pour mission de transmettre à l'identique à la génération suivante.
Il me délivrait tous les secrets qui allaient m'être nécessaires à ma vie de paysan et qu'il avait lui appris de son père, de son grand-père, etc. Donc j'étais destiné à suivre exactement le même chemin que lui. Est arrivée la guerre, les bouleversements dont nous parlions, le fait que j'ai eu une bourse d'études et qui fait que tout ce qu'on m'a appris dans la période que je raconte ne m'a par la suite servi entre guillemets à rien. Obscurément, ça m'a peut-être servi à beaucoup. Mais en tout cas, j'ai grandi et j'ai été élevé dans une culture de la terre, et j'ai vécu dans une autre.
Aujourd'hui, nous ne savons pas dans quel monde vivront nos enfants. Et eux-mêmes ne se soumettent plus à l'acquisition verticale des savoirs, dont ils se demandent à quoi ils leur serviront. À quoi bon recevoir ce qui paraît inutile ou ce qu'on n'a pas choisi ? On ne découvre pas que la transmission est réciproque, mais jusqu'au développement technologique du XXe siècle, les enfants ne transmettaient pas des savoirs aux parents. La transmission verticale existant depuis l'origine s'en trouve bouleversée.
Alors aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui savent très bien que le monde change. Il change beaucoup plus vite qu'avant, et même d'une génération à l'autre. Vous savez que par exemple, ce n'est un secret pour personne que ce sont les enfants qui apprennent à leurs parents à se servir d'un ordinateur et de quantité d'objets informatiques. Donc c'est pourquoi ? Parce que les parents n'ont pas appris. Il y a une espèce de renversement des rôles qui était totalement inattendu dans notre société.
Si le désir rend apte à recevoir autant qu'à transmettre, une autre révolution est-elle en train d'émerger ?
Toute la démarche dans ce domaine est obturée par une confusion entre connaître, parce que nous avons en effet des modèles de la connaissance extrêmement puissants, et en particulier dans un monde scientifique,
Marcel Gaucher,
qui aujourd'hui jouit d'une autorité sans pareil, mais la connaissance, c'est tout à fait autre chose que l'apprentissage. L'apprentissage tel qu'il se joue à l'école. Apprendre, c'est apprendre à lire, à écrire, à compter. Ça, on connaît très bien la cible. C'est-à-dire apprendre le maniement d'un univers de signes graphiques. Eh bien, c'est là que ça coince. Nous ne savons pas bien, ou très mal, comment ce processus se passe, comment l'aider, comment l'encourager. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le savoir est acquis, il ne faut pas se leurrer, une image globalement oppressive dans nos sociétés. C'est probablement l'une des révolutions silencieuses les plus fortes de notre temps et par rapport auxquelles nous devons être en alerte.
Le langage étant l'instrument principal de la transmission, sa connaissance en est le préalable et l'écrivain Éric Orsenna, l'inlassable défenseur.
Je pense qu'il y a une vraie crise de la transmission. D'abord, parce qu'il y a une crise de la langue. Et comment peut-on transmettre, quel que soit le champ du savoir, si on ne connaît pas les mots, si on ne connaît pas la langue? Donc comment est-ce qu'on peut faire? Et donc ce qui me frappe énormément, c'est à quel point le principe d'égalité tue l'égalité des chances.
L'information illimitée et accessible à tous de façon horizontale fait-elle concurrence à la transmission verticale? En quantité, certainement, mais on ne peut pas les confondre, car la transmission ne porte pas seulement sur un contenu. Elle passe par une relation, que ce soit dans un cadre privé ou institutionnel. Elle recrée des appartenances, une histoire inscrite dans une temporalité. De plus, l'information, qui se pare des vertus de la neutralité, ne l'est pas. Henri Atlan pointe la confusion entre information et communication.
Il n'y a pas de plus en plus d'informations. Il y a de plus en plus de communication. Et la communication, elle a un but bien précis. Ça n'est pas la transmission ni de vérité ni d'erreur, c'est la vente. Soit au sens propre, tout simplement la publicité pour vendre des produits, soit au sens figuré, pour vendre des idéologies, pour vendre des programmes politiques, pour vendre des idées, même des théories. Et il y a donc une contamination de plus en plus forte de l'information par la communication. Et c'est un processus qui a commencé il y a à peu près un peu plus d'un siècle. Ça a commencé par, enfin on peut dater cela à la publication dans les années 20, par un neveu de Freud, qui était Edward Bernays, qui était journaliste aux États-Unis et qui a compris la force de la publicité et qui a créé de toutes pièces les métiers de la communication. Il a publié un livre extraordinaire qui s'appelle « Propaganda » et dans lequel il explique exactement tout ce qui se passe actuellement. Il explique la notion même de lobby, la notion de groupe de pression, comment il faut faire pour vendre un produit qui n'est pas acheté et comment le présenter pour arriver à le vendre, et ainsi de suite. Et ceci n'a fait qu'augmenter de plus en plus, à tel point que maintenant ça fait partie de la réalité admise par tout le monde. On admet qu'un homme politique doit avoir un service de communication. Bernays a assisté au premier exemple de président des États-Unis élu grâce à la communication. Bon, maintenant, ça fait partie des choses considérées comme normales. Et c'est d'autant plus dramatique que jusqu'à il n'y a pas longtemps, on pensait que la science était à l'abri un peu de ça. Et malheureusement pas, maintenant, on s'aperçoit de plus en plus qu'elle est aussi contaminée par la communication.
Si les difficultés sont apparues au XXe siècle, on ne peut méconnaître ce que la psychanalyse a apporté à la compréhension des mécanismes de la transmission.
Disons que la psychanalyse permet de redécouvrir des choses que l'on aurait pu agencer ensemble.
Jean-Pierre Winter.
Pour parler de ce que c'est que la transmission, en les empruntant donc aux philosophes depuis la plus haute antiquité, je pense à Platon bien sûr, mais à saint Thomas d'Aquin, au Talmud, à différentes sources, aussi à la poésie. Je pense à des poètes comme Racine ou comme Baudelaire. J'ai plus de mémoire que si j'avais 1000 ans. Je pense à Maeterlinck, etc. Disons que la psychanalyse a organisé ce que Freud appelait des disjecta membra, des membres épars, pour en faire une théorie cohérente. Et ce rassemblement, cette réunion de différentes réflexions concernant la mémoire et donc la transmission, a abouti à ceci, c'est que, au moins à deux points importants. Le premier, c'est que la transmission existe sur le plan conscient, on transmet un certain nombre de pensées, un certain nombre d'attitudes, de postures, mais existe surtout dans le registre de l'inconscient. Freud a considéré que la transmission se fait de surmoi inconscient à surmoi inconscient. Que donc une grande partie de la transmission nous échappe. Pour le dire tout simplement, nous ne savons pas au moment où nous transmettons que nous transmettons. Et nous ne savons pas au moment où nous recevons ce qui appartient à un passé récent ou à un passé beaucoup plus lointain, nous ne savons pas que nous sommes les récepteurs d'une transmission. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que la psychanalyse nous apprend, mais c'était déjà, par exemple, compris par quelqu'un comme Nietzsche, la transmission ne se fait pas uniquement dans le sens vertical du haut vers le bas, c'est-à-dire des générations antérieures, qu'elles soient celles des parents, celles des maîtres, vers les enfants ou vers les élèves. Elle se fait aussi dans le sens régrédient des enfants ou des élèves vers les maîtres, et aussi de façon horizontale, de père, P-A-I-R, à père, d'enfant à enfant. Donc la psychanalyse, en réorganisant les choses, a permis de constater qu'un des lieux privilégiés de la transmission, c'était la langue, le langage, sous toutes ses formes. Mais surtout, ce que la psychanalyse met en évidence, c'est que la question de la transmission, en fait, se pose pour l'être humain essentiellement dans les ratages de la transmission. Quand on se pose la question, non pas qu'est-ce qu'on m'a transmis, mais qu'est-ce qui ne m'a pas été transmis. Quand des symptômes s'analysent, se décryptent, et que l'on s'aperçoit que si on a été en proie à tel ou tel symptôme, eh bien, c'est la conséquence d'une faillite de la transmission, ou en tout cas d'un manque radical de ce côté-là. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler, ce que certains appellent, la transmission du traumatisme. Quand, d'une façon tout à fait délicate et très difficile à théoriser et à mettre en mots, quand ce sont les expériences malheureuses et traumatiques des générations précédentes, qui ont des effets sur les générations actuelles. Et je pense évidemment aux guerres, bien sûr, mais aussi à des événements quelquefois strictement familiaux ou tout à fait individualisés, qui, du fait que, par exemple, elles ont fait l'objet d'un silence, ce que aujourd'hui tout le monde peut savoir et prendre en considération, l'objet d'un silence ou l'objet d'un mensonge, se transmettent comme pur effet d'un trauma. Comment expliquer, par exemple, c'est anecdotique et juste amusant, comment expliquer que la plupart des livres, des grands livres de l'histoire humaine et de l'histoire religieuse commencent par l'annonce d'une catastrophe qui détruit quasiment tout ce qui est vivant sur Terre, sauf en sauvant une toute petite partie de l'humanité, alors qu'on sait aujourd'hui qu'effectivement une telle catastrophe a eu lieu et qui a engendré la disparition des dinosaures ou autres, alors qu'il ne se trouvait aucun être humain, évidemment, pour transmettre cette catastrophe, d'où vient que un savoir de la catastrophe généralisée sous forme d'inondation ou de tout ce qu'on veut, ce soit écrite il y a 5, 6, 7, 8 000 ans, et que tout semble laisser penser, évidemment, c'est métaphorique, mais en même temps, il y a peut-être un fond de réel dans l'affaire, d'où vient qu'on en sache quelque chose à une époque où scientifiquement, on n'en sait rien. Ça a évidemment intrigué de nombreuses personnes, ça fait réfléchir, ça fait surtout rêver, ça fait surtout imaginer, mais je pense à Tal Assad, Ferenczi, un des meilleurs élèves de Freud, mais à Freud lui-même, qui n'hésite pas quelquefois à faire des sauts dans l'histoire immémoriale de l'humanité pour essayer de rendre compte du fait que, quand par exemple nous sommes amenés à nous ressouvenir de traumatismes qui sont les nôtres, ils sont enserrés, ils sont insérés dans des traumatismes qui concernent l'histoire de l'humanité et qui dépassent largement le récit de nos propres traumatismes.
La psychanalyse n'apporte donc pas de réponse sur ce que nous sommes nombreux à percevoir comme une réalité, à savoir la transmission des caractères acquis. C'est le cas de l'artiste Christian Boltanski.
Et je pense, et c'est là où c'est très très douteux, que mon esprit est aussi formé par tous ceux qui m'ont précédé et que j'ai à la fois dans ma tête un rabbin ukrainien et un berger corse et qu'ils sont là et qu'ils m'ont apporté une connaissance qui était une connaissance qui était instinctive, que je n'ai pas eu à apprendre. Et effectivement, pour le rabbin ukrainien, je me suis moins occupé du berger corse. Mais pour le rabbin ukrainien, j'ai fait des œuvres dans ma vie que des amis pratiquants juifs m'ont dit « mais c'est tout à fait dans la tradition ». Et je ne savais pas. Comme si je le savais sans le savoir, comme ça. Donc là, c'est une autre sorte de transmission.
Alors, faut-il se tourner vers la génétique pour trouver une explication ?
Mais la génétique proprement dite, non. C'est-à-dire que le dogme
Henri Atlan,
qui date lui aussi d'un siècle à peu près, de la non-transmission des caractères acquis, c'est-à-dire il n'y a pas de transmission des caractères acquis. Donc ce qu'on apprend ou ce dont on souffre dans notre existence, eh bien ça ne se transmet pas dans les gènes. Bon, mais on sait maintenant que tout n'est pas écrit dans les gènes. Ce qui compte, en l'occurrence, ça n'est pas seulement la structure des gènes, c'est aussi leur activité. Et l'activité des gènes, elle, ne dépend pas que des gènes. L'activité des gènes dépend aussi, et beaucoup, des autres molécules qui se trouvent dans les cellules, qui ne sont pas des ADN, qui sont des protéines, qui sont des ions, comme des sels, de potassium, de calcium et autres, etc., eh bien, contribuent à rendre actif ou inactif telle ou telle partie du génome. Et c'est cela qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire, en réalité, le contrôle de l'activité des gènes par ce qui n'est pas génétique. Alors, ceci peut expliquer, dans certaines situations, que, en effet, une modification, non pas de la structure des gènes, mais de leur activité, soit transmise d'une génération à l'autre. On connaît quelques exemples de ce type-là. Un des premiers exemples, c'est celui d'une famine qui a frappé la population hollandaise, en particulier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et dans cette population se trouvaient un certain nombre de femmes enceintes, donc qui souffraient de cette même famine, et qui ont eu des enfants qui avaient des troubles métaboliques du genre obésité, diabète, etc. Bon. Et bon, les statistiques montraient que c'était en corrélation évidente avec ce dont les mères avaient souffert. Or, jusque-là, il n'y avait rien d'extraordinaire. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'on a retrouvé les mêmes troubles chez les enfants des enfants, c'est-à-dire dans la deuxième génération. Donc là, quelque chose a été transmis qui n'était pas la structure des gènes, parce que la famine ne modifie pas la structure des gènes des mères ni des enfants. Donc c'était un exemple de transmission épigénétique. Et ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est qu'il a pu être reproduit au laboratoire sur des souris.
Nul ne sait à l'heure actuelle si l'épigénétique apportera une explication pour chaque cas particulier. En revanche, en concevant un enfant, on est sûr qu'un homme et une femme transmettent leurs gènes, et autrefois on disait leur sang. Mais ce terme de transmission, habituellement dévolu à la transmission par la parole, est-il adapté ?
Je crois que oui, je pense qu'il y a une transmission d'informations génétiques, tout simplement parce que les gènes sont des molécules d'ADN qui se transmettent telles quelles d'une génération à l'autre. Quand je dis telles quelles, ça veut dire dans leur structure physique. Maintenant, les combinaisons de gènes, elles, sont différentes. Bon, c'est ça qui introduit une complexité déjà à ce niveau-là, qui fait que personne n'a les mêmes gènes que personne d'autre, même si ça provient des parents, mais il y a chaque fois des recombinaisons de telle sorte que les gènes d'un individu sont uniques pour cet individu. Et si, pas seulement ces gènes, mais surtout leur façon de fonctionner. Alors, il y a donc une transmission d'informations. Mais cette information n'est pas la même que l'information qui est transmise, par exemple, dans des signaux sur la route, qui transmettent aussi une information. Et puis surtout, cette information-là n'est pas la même, évidemment, que celle qui est transmise par des discours parlés ou écrits dans les langages humains. La sémantique n'est pas la même, et surtout la signification n'est pas la même du tout. Donc il y a chaque fois transmission d'informations, mais ce sont des informations de nature différente.
La transmission génétique a elle-même subi des mutations. Nombre de parents, qu'ils soient d'intention, comme les parents adoptifs, ou qu'ils aient recours à la procréation médicalement assistée, ne transmettent pas leurs gènes ou seulement une partie d'entre eux, notamment s'il y a intervention d'un tiers donneur de vulve ou de sperme. Nul doute que la transmission de l'histoire familiale s'en trouve affectée, même si rien ne permet de dire que c'était mieux avant, car la conception a toujours constitué un trésor de non-dit. Mais la possibilité, même restreinte, de choisir les gènes que l'on va transmettre, ce qui ne dit rien de la façon dont ils s'exprimeront, va dans le même sens qu'un ensemble de choix à la disposition de l'individu qui autrefois était impossible, techniquement ou socialement. Une fois l'enfant conçu, le nom de famille est la première chose que les parents transmettent consciemment.
Derrida, c'est un beau nom, non ?
Il m'est arrivé de dire que alors ça paraît, je suppose, à certains indécents que j'aime ce nom.
Jacques Derrida au micro de Laure Adler.
Mais ce qui m'autorise à l'aimer et à le dire, c'est que d'une certaine manière, comme c'est le cas pour tout nom propre, ce n'est pas vraiment le mien. Ce n'est pas quelque chose que je peux m'approprier, n'est-ce pas ? C'est un nom qui m'a été légué et auquel, pour des raisons qui tiennent probablement à la chance de mon histoire, de mon organisation archaïque, auquel j'ai envie de servir, voilà. Hein. Donc je me sens responsable, tout le monde est responsable de son nom, c'est même la définition de la responsabilité, mais que j'aime à servir, si bien que, d'une certaine manière, je l'aime comme le nom d'un autre, et oui, je ne sais pas si ça c'est original. Le nom propre est aussi une appellation qui nous tombe dessus et qu'on ne peut pas s'approprier, malgré tous les mouvements de narcissique ou de domestication, de réappropriation. Il est toujours au-delà, transcendant d'une certaine manière. Alors, je l'aime en tant que tel, en tant qu'il ne m'appartient pas, qu'en tout cas, je suis responsable devant lui, mais aussi probablement à cause de sa sonorité, de ses lettres, de ce qu'il a, de judéo-hispano-arabe. Je l'aime comme les lieux dont je viens.
Christian Boltanski, lui, en fait des livres.
J'ai fait énormément de livres avec seulement des listes de noms. Nommer quelqu'un qui a disparu m'a toujours semblé extrêmement important. Qu'on sache qu'il y avait Monsieur Jules Machin et Monsieur Jean Truc. Et donc de faire ces listes de noms, c'est-à-dire c'est à chaque fois de dire il y a eu quelqu'un et quelqu'un d'unique. Quelqu'un qui était seul à avoir ce nom. Et donc on transmet la mémoire de ce nom.
Dans les sociétés occidentales, le nom de famille constitue un outil d'assignation et d'identification, trait d'union entre la personne, ses ascendants et ses descendants. Il permet de classer les générations et les lignées. Mais la transmission du nom de famille est loin d'être immuable, et les lois les plus récentes dans les pays européens ont introduit des changements majeurs, même si les parents et leurs enfants mettent du temps à s'en emparer. En France, la dernière loi date de 2005. Elle est le résultat d'un long processus européen en vue d'égaliser les droits entre les hommes et les femmes. Que dit-elle ?
On passe à la possibilité de transmettre un seul nom, celui du père ou celui de la mère, ou bien les deux noms, dans l'ordre choisi par les parents. Nom du père, tiret nom de la mère, nom de la mère, tiret nom du père.
Virginie Desmazières.
L'autre spécificité de la loi, c'est donc de pouvoir transmettre un nom ou un seul, ou bien le double nom. Et ce double nom, à la majorité des enfants, les enfants peuvent décider de faire tomber, je ne sais pas quelle autre vraiment expression utiliser, un des deux noms. Enfin, je vois très bien les enfants qui ont un double nom. Pour eux, c'est nous qui disons double nom. Hein. Eux, ils disent c'est mon nom. Et ils n'ont pas du tout l'impression qu'il est sécable. Alors, pour les couples homosexuels, les deux mères ou les deux pères peuvent transmettre chacun leur nom. Et l'enfant, après, choisira celui qu'il veut transmettre.
Alors que porter le nom du père a longtemps signifié que l'enfant avait la reconnaissance d'un père, ce qui n'était pas le cas des bâtards portant le nom de leur mère, sous couvert d'égalité entre les hommes et les femmes, le nom tend à devenir le reflet de l'individu dans sa dimension sociale, mais aussi affective, Par exemple, quand celui-ci peut tenir un raisonnement au mérite par rapport à ses propres parents pour déterminer le nom de ses enfants.
En Europe, on pourrait dire qu'il y a un peu quatre modèles. Il y a le modèle anglo-saxon qui est le plus libéral. Bon, c'est pas très original. En Angleterre, vous pouvez choisir votre nom. Tout est possible. Le nom n'indique plus de lien de filiation. Ouais. C'est l'auto-naissance. Enfin, je sais pas comment on appellerait ça.
L'auto-engendrement.
L'auto-engendrement, ou voilà. Alors ça, c'est un modèle, voilà, c'est un des modèles. À l'opposé total, on pourrait dire qu'il y a l'Italie, par exemple, qui ne permet pas encore légalement la transmission d'un double nom. C'est le patronyme, toujours, qui est transmis. On a maintenant la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, qui ont suivi le modèle de la transmission bilatérale du nom du père et du nom de la mère. Mais en fait, c'est le modèle le plus large, puisqu'on peut à la fois choisir de transmettre un seul nom ou les deux. Chacun voilà, fait comme il veut. Et puis, par exemple, les Allemands, eux peuvent choisir le nom du père ou le nom de la mère, et ça depuis très longtemps. Mais ils ne permettent la transmission que d'un nom et un seul. Donc, les gens choisissent majoritairement la transmission du nom du père. Et ils appellent ça, eux, depuis très longtemps, le nom de famille.
Monsieur Mathieu.
Monsieur Mathieu, ouais. Votre façon,
Monsieur M.
Monsieur M, oui. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça va être très dur pour lui d'arriver à faire oublier son nom de famille. Hein. Je crois qu'il va y renoncer rapidement. Hein.
Je ne pense pas qu'il ait envie de faire oublier son
mais
nom de famille.
Mais il a quand même pris un nom comme ça.
Louis Chédid.
Mais c'est bien aussi, je trouve, qu'il ait pris une initiale comme ça, M.
Je vois pas pourquoi ce serait une tare.
En France, comme dans les autres pays, la transmission du nom du père reste encore majoritaire. Et on s'en débrouille comme on peut, qui avec un pseudonyme, comme chez les Chédid, qui en se faisant un prénom, comme chez les Dassault.
À un moment, je me suis dit, je vais peut-être changer de nom, parce que faire des photos et s'appeler Olivier Dassault, ça ne va peut-être pas ensemble. Et puis en fait, c'est un faux problème. Il faut peut-être faire oublier son nom et garder son prénom.
Que par principe, il doit être bon disciple, car les années passent vite, et demain, il sera déjà un homme, et c'est lorsque l'on est môme qu'il faut préparer en somme son destin. C'est trop tôt, entre vous et moi, pour tracer son chemin de croix. Apprendre très très vite d'abord les mathématiques, c'est une chose pratique bien souvent, car on lui dit que les chiffres pour qui veut la réussite se transforment, et je cite, en argent. C'est trop tôt.
Dans les sociétés de tradition où la transmission était un impératif avec ses inculcations à l'ancienne, est-ce qu'elle fonctionnait si bien que ça? À travers deux exemples, l'un historique et l'autre choisi dans la littérature, nous allons en saisir les paradoxes, les ratages et les réussites, une façon de ne pas idéaliser le passé. L'exemple historique est celui de l'infant de Parme, auquel la philosophe Elisabeth Badinter a consacré un livre. L'infant de Parme, né en 1851, est le fils de Louise-Élisabeth, la fille aînée de Louis XV, et du fils du roi d'Espagne, Philippe V. Il va faire l'objet, à partir de 6 ans, d'une expérience pédagogique que l'on peut qualifier de révolutionnaire. L'objectif de sa mère est d'en faire un prince moderne qui gouvernera par la raison et sera orienté vers le progrès. Va-t-il confirmer les espérances des philosophes des Lumières pour qui l'éducation peut tout? Tel est l'enjeu crucial qu'il a mission d'incarner.
Alors, la mère de ce petit Ferdinand, lorsqu'il a 5 à 6 ans, cherche les deux personnes adéquates.
Et Elisabeth Badinter.
Elle trouve à la cour de France un homme absolument, comment dirais-je, prestigieux, qui s'appelle l'abbé de Condillac, et qui est le philosophe qui a inspiré l'encyclopédie, le philosophe le plus en avance sur la question des connaissances et de l'acquisition des connaissances. Et je dirais, c'est l'ami intime de Rousseau, d'Alembert, d'Hydrou. Enfin, elle le convainc d'aller à Parme. Mais avant lui, un an avant lui, elle a choisi également un gouverneur, donc qui s'appelle Kiralio, qui est lui aussi un homme très, je dirais, très attiré par la modernité, et qui dévore Voltaire, qui s'intéresse aux sciences. C'est un ingénieur militaire qui a beaucoup fait la guerre, mais en même temps, c'est un vrai intellectuel. Donc, le premier qui arrive à Parme, c'est Kiralio. Arrive un an plus tard l'abbé de Condillac, et il est venu, il explique qu'il est venu finalement expérimenter sur cet enfant et démontrer ses théories pédagogiques qui apparaissent au premier abord extrêmement modernes. Selon lui, il faut se mettre à la portée de l'enfant. Et il dit lui-même que pour encourager l'enfant, pour que ce soit intéressant pour l'enfant, il faut, par exemple, faire appel au jeu. Il joue à l'élève, l'enfant fait le professeur. Finalement, le précepteur était là plus pour orienter, pour donner des occasions, que pour faire du bourrage de crâne. Le petit Ferdinand, en grandissant, a semblé résister aux théories et aux méthodes de Condillac. On s'aperçoit que Condillac a un programme qu'on inflige à cet enfant qui n'est absolument stupéfiant, même pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire que aussitôt arrivé, cet enfant va être obligé de lire Newton, Descartes, connaître le théâtre français, les théories de la grammaire, enfin, toutes sortes de choses qui, avant 10 ans, devaient être intégrées par lui. Et nous restons effarés. Mais il y a une deuxième raison. C'est que le gouverneur, comme le précepteur, étaient, selon les critères de l'époque, des enseignants assez brutaux. On apprendra beaucoup plus tard, et notamment par son autobiographie qu'il a écrit, le petit garçon a écrit à 19 ans son autobiographie, qu'il a été l'objet, on peut le dire, de violences physiques. Mais je dirais comme tous les petits garçons de l'époque. Et cette violence, cette autorité a certainement pour lui étaient des facteurs de révolte puissants, à une sorte de révolte sourde de l'enfant. C'est-à-dire que cet enfant, Ferdinand, est un enfant doux, sûrement très gentil, peureux, solitaire, et qui ne trouve pas dans son environnement, dans sa famille, des personnes qui pouvait lui donner de l'amour.
On ignore presque tout des 6 premières années de sa vie, qui aujourd'hui nous paraissent si importantes, mais on sait qu'il sera orphelin de mère à 8 ans et qu'il perdra aussi son père à 14 ans, tandis que sa sœur aînée, qui lui servait de mère, le quitte pour se marier. Il reste avec ses philosophes modernistes d'une part et les prêtres de l'autre.
Et il se passe à ce moment-là quelque chose qui est assez compréhensible, c'est qu'il fait connaissance avec les prêtres. Et ce petit garçon, en dépit des objections constantes et de son gouverneur et du précepteur, va développer une fascination pour tout ce qui est de l'ordre du religieux, ce qui est normal. À cette époque, c'est normal. Mais aussi de toutes les superstitions possibles de ce que sa mère appelait la prêtaille italienne. Et il va peu à peu, en douce, de ses professeurs et gouverneurs, quasiment passer son temps à ça. Et il n'a qu'une idée, c'est de passer son temps à dessiner des cloches, à dessiner des saints, et il les cache d'ailleurs dans ses toilettes, parce que sinon, il risque de se faire franchement attraper, voire plus, par ses maîtres. Je pense qu'à ce moment-là, il a choisi de se rapprocher encore plus de la prêtaille et de jouer le bon élève avec ses enseignants. Il a joué la comédie.
Quand on vous lit, on est moins sévère aujourd'hui par rapport à cette transmission que n'ont pu l'être les personnes de l'époque qui ont trouvé que c'était un échec total.
On a trouvé que c'était un échec total au XVIIIe, puisqu'on l'a appelé quand même le prince des dévots et même le prince des ténèbres. C'est-à-dire vraiment l'opposé de l'objectif de la philosophie des Lumières. Mais c'est vrai aussi qu'on perçoit dans certaines décisions qu'il a prises, je dirais assez tardivement, une sorte de retour aux valeurs de ses maîtres. Mais c'était un peu trop tard pour changer sa réputation.
La transmission autoritaire des savoirs et des comportements, confinant par ses excès à la soumission, voire à l'endoctrinement, a donc partiellement échoué, tandis que la transmission routinière de la religion, proche de l'idolâtrie, a fini par l'emporter. Mais peut-on parler, dans le cas de la religion prônée par la Preta italienne, de transmission ?
C'est un point important pour réfléchir à la question de la transmission. Parce que la religion, par exemple, sous la forme du rituel, est-ce qu'elle transmet ou est-ce qu'elle répète ?
Jean-Pierre Winter.
Je dirais que, dans la plupart des cas, les religions jouent de cette confusion. Le rituel sert justement à faire croire à une transmission qui est une transmission blessée, c'est-à-dire une transmission qui n'a pas lieu, en fait. Car il s'agit de ne pas transmettre tout en répétant. Est-ce que la répétition, quand je m'y conforme, fonctionnera comme une transmission ? Ou est-ce que mettre fin à la transmission, c'est changer de rituel ? Chacun d'entre nous porte une responsabilité dans ce qu'il accepte ou dans ce qu'il refuse de ce qui lui est transmis, même si c'est multifactoriel, la décision qu'on prendra. Évidemment, il y a l'influence de l'entourage, il y a l'influence du groupe auquel on appartient, il y a l'influence de l'époque aussi. Il y a l'influence de l'avancée de la science qui permet peu à peu de se débarrasser de choses qui se sont transmises mais qui n'ont plus de fonction sociale. Donc c'est multifactoriel, on est bien d'accord, je crois, tout le monde là-dessus.
Ceci me conduit à mon second exemple, pris dans la littérature, où la religion joue aussi un rôle central, bien qu'il ne s'agisse pas de la même, ni du même mode de transmission. Il s'agit du livre de l'auteur américain Chaim Potok, paru en 1972, « Je m'appelle Asher Lev ». Asher Lev vit à Brooklyn où il est né en 1943. Il est issu de deux grandes lignées hassidiques d'Europe de l'Est. En plus de cet héritage, il a reçu un don pour le dessin qu'il pratique depuis l'âge de 4 ans. En choisissant à l'adolescence de devenir peintre, bravant l'interdit de la représentation, tout en restant juif observant, il devient pour son père le fils maudit.
D'abord, son père, qui est le bras droit du chef de la communauté, est effrayé par le talent de son fils et veut le contraindre à y renoncer. Mais voilà que le sadique en question, lui, ne voit pas du tout les choses comme ça, et alors qu'il est le gardien de la tradition et le gardien des commandements, il s'agit de plus que de la tradition, le gardien de la loi, voilà qu'il encourage, à sa façon, cet enfant à aller le plus loin possible dans ce que on appellerait son talent ou son don, mais qu'aujourd'hui on pourrait appeler son symptôme. Donc jusque-là, on peut dire, c'est un échec de la transmission paternelle. Le père n'a pas réussi à transmettre l'importance de cet interdit de la représentation, mais c'est une réussite, parce que c'est la naissance, l'éclosion d'un artiste. Et c'est une réussite aussi parce qu'elle montre que même dans un milieu très rigide apparemment, une place est laissée à l'initiative et à la décision personnelle. Donc dans ce contexte-là, Asher Lev, en développant son don, va poser une première question, c'est quant à la transmission, dans le cadre de sa religion, de sa foi, quelle est la différence entre la responsabilité d'un père et la responsabilité d'un maître. Ce que montre bien Chaim Potok dans son livre, c'est que la question de la source de ce don est une question évidemment fondamentale. Puisque ça pose la question de savoir, est-ce que ce don est ex nihilo ? Est-ce qu'il est issu d'un refoulement sur plusieurs générations d'une tendance jusque-là ignorée et qui se révélerait avec Asher Lev, mais alors pourquoi ? Pourquoi lui ? Est-ce que, comme il le dit lui-même dans le roman, est-ce que c'est une transmission qui viendrait de ce qu'il appelle l'autre monde ? Et l'autre monde, c'est le monde diabolique, pour le dire simplement. Est-ce que donc c'est une expression, oui, une expression des puissances du mal? Ce qui voudrait dire que, d'ailleurs, que dans la transmission se pose la question de savoir si le mal ne se transmet pas plus facilement ou de façon plus phénoménale que le bien. Alors Raïm Potok, dans le cas précis d'Asher Lev, nous dit ceci, je me permets de vous le lire. Il fait parler à Charlève et il lui fait dire « Pour tout ce que tu as souffert, maman, pour toutes tes souffrances passées et futures, maman, pour toute l'angoisse que ce tableau va te causer, maman, pour ce mystère indicible qui jette père et fils l'un contre l'autre sous les yeux en pleurs d'une mère, pour le maître de l'univers, pour le monde qu'il a créé et que je ne comprends pas, pour les cauchemars, les nuits blanches, les souvenirs morbides, pour l'amour que j'ai pour toi, pour tout ce dont je me souviens et tout ce que j'ai oublié, pour tout cela, j'ai fait ce tableau. Moi, un juif observant, j'ai peint une crucifixion parce que je ne trouvais pas dans ma propre tradition religieuse de modèle capable d'exprimer une telle angoisse et une telle souffrance. » Je pense que dans ce paragraphe, il dit à peu près tout. Mais il dit une chose essentielle, c'est qu'il n'y a rien qui se transmet aussi bien que l'angoisse. Alors c'est pour ça que je dis, il y a à la fois une transmission ratée, mais aussi, par la sublimation, la transmission de quelque chose de beaucoup plus important, en allant puiser ailleurs que là où les choses lui ont été volontairement transmises. Et c'est cette transmission dans l'ailleurs que va permettre le tzaddik, le chef de la communauté, pour régénérer et pour nourrir sa propre communauté. Ce qui témoignera évidemment d'une ouverture totalement surprenante à l'endroit même où elle était pensée comme impossible.
La transmission à l'ancienne n'est plus de mise dans une société de la connaissance où tout est supposé se jouer entre l'individu et le savoir qu'il a le désir ou le besoin d'acquérir. Ce modèle étant globalement un échec, une transmission débarrassée de l'imposition, de la verticalité et de l'autorité est appelée à revenir sur le devant de la scène, mais sans mode d'emploi. D'autant que les événements sinistres qui se sont produits au XXe siècle et continuent de se produire sous nos yeux jette un discrédit sur les valeurs d'une culture incapable de s'opposer à la barbarie. A contrario, tout ce qui affecte la transmission nous fait saisir ce qu'elle a d'irremplaçable. Parier sur la transmission, comme nous y engage Daniel Salnave, est un acte de pure confiance, pas seulement pour que la nouvelle génération devienne elle-même, mais pour la société tout entière.
Alors que faire ? Rien d'autre que de parier obstinément sur chaque enfant, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, en gardant obstinément ce cap fixé par Victor Hugo dans les quatre vents de l'esprit, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Il y va de notre avenir, de notre survie. La transmission est toujours possible. Si l'homme a des racines, il est comme un arbre. Son élan le tourne vers le ciel et la lumière, et vers le foisonnement de cette forêt qu'est la société des autres hommes, monde commun, monde partagé. Car il existe en nous quelque chose qui est commun à tous par-delà les différences. Et c'est là-dessus que l'école doit se fonder. Et c'est là-dessus que la transmission doit parier. C'est un pari, il doit réussir. Ne cédons pas aux forces négatives du rejet, du refus, de la défiance et de la peur. Faisons généreusement, ensemble, contre elles, le pari de la transmission.
C'était la transmission dans tous ses états. Le pari de la transmission. Une émission de Caroline Eliachef, réalisation Manouchak Fachaï. Avec Henri Atlan, Elisabeth Baninter, Virginie Desmazières, Éric Orsena, Mona Ozouf, Jean-Pierre Winter. Coordination Perrine Kervran, attachée d'émission Marie-Vonne Abolivier. Archivina Élodie Royer. Collaboration, Céline Rosa. Recherche musicale, Romain Couturier. Prise de son, François Rivalan, Georges Thau. Mixage, Manuel Couturier.
LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez tout transmettre, bibliographie, lien, nous podcaster pour vos enfants ou nous réécouter avec vos grands-parents, eh bien c'est sur la page de la série documentaire sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter. Demain, deuxième épisode, l'école Pierre Claver, un laboratoire de savoir-vivre. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.